Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeurs de Radio Calade, bonjour, c'est Poker Menteur, votre émission mensuelle favorite. Ce mois-ci, c'est l'été, il fait chaud, vive les vacances, nous allons parler de sport. Quel sport? Eh bien, le volleyball, avec un invité que nous vous présenterons très rapidement. Mais d'abord, nous commençons avec notre chronique géopolitique de Jean-François. C'est parti!
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonjour Jeff.
Bonjour Geneviève.
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Tigré, car le mercredi 7 juillet 2021, Médecins Sans Frontières a annoncé la suspension de ses activités dans certaines parties du Tigré, une région de l'Éthiopie. MSF proteste ainsi contre le gouvernement éthiopien, dont les agissements sont considérés comme irresponsables.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au Tigré pour en venir à prendre une décision aussi radicale?
Alors, un examen de la situation politique éthiopienne s'impose pour répondre à cette question. Il nous faut remonter au mois de novembre dernier, au 4 novembre précisément, date à laquelle le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait annoncé une offensive dans le Tigré, la région la plus au nord de ce pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement central éthiopien entendait ainsi mettre fin aux agressions répétées du Front de libération du peuple du Tigré, le FLPT, parti politique insurrectionnel souhaitant l'autonomie de cette région. Mais depuis, les récits des témoins, les rapports des ONG ou encore les images prises par satellite des zones de combat attestent d'une campagne de violence inouïe contre les civils tigréens, les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte.
Mais la seule volonté autonomiste du FLPT explique autant de violences?
Non, les violences perpétrées contre le peuple tigréen ont des racines plus anciennes. Il faut déjà savoir que le FLPT a joué un rôle central en 1991 dans la chute du Derg, cette junte marxiste-léniniste qui tenait alors les rênes du pouvoir en Éthiopie. Le Front de libération du peuple du Tigré a alors profité de la victoire pour vampiriser toutes les sphères du pouvoir, devenant ainsi une minorité régnante, oppressive et repliée sur elle-même. Devant la montée des colères des Éthiopiens contre la surveillance et la corruption qui s'étaient alors installées, le FLPT se replie progressivement à partir de 2014 sur le Tigré, laissant le jeu démocratique prendre place à l'échelle nationale. Abiy Ahmed est alors élu Premier ministre en 2018.
Attends, Abiy Ahmed, on parle bien du prix Nobel de la paix 2019?
Effectivement, Abiy Ahmed a reçu cette prestigieuse distinction pour son action en faveur de la réconciliation de l'Éthiopie avec l'Érythrée, cette ancienne province éthiopienne, indépendante depuis 1993. Depuis, une guerre froide sévissait entre les deux États. Aussi, l'accord de paix signé en juillet 2018 à l'initiative donc d'Abiy Ahmed avait surpris la communauté internationale. Cela dit, aujourd'hui, nous sommes moins surpris de voir l'armée érythréenne se joindre à l'armée éthiopienne pour réprimer les volontés autonomistes des Tigréens.
Et comment expliquer cette volonté autonomiste de la part des Tigréens?
Assez logiquement, une fois à la tête de l'État, Abiy Ahmed a purgé le rouage du pouvoir de ses éléments tigréens, qui se sont donc repliés sur leur région. Devant le report des élections législatives prévues en 2020, élections durant lesquelles Abiy Ahmed remettait sa popularité en jeu, le FLPT a choisi la voie insurrectionnelle. Mais les forces gouvernementales, alliées donc à l'armée érythréenne, ont vite réussi à prendre le contrôle de Mekele, la capitale régionale et fief du FLPT. Contraints de se réfugier dans les montagnes, les rebelles ont alors mené une véritable guérilla. Dès lors, l'État central a choisi de jouer cette guerre à huis clos, en coupant toutes les télécommunications et en fermant les accès à Mekele aux journalistes et organisations humanitaires. Un véritable drame humain se joue depuis. En effet, de nombreux civils ont été massacrés, et on visait même les enfants. Les viols collectifs se répètent inlassablement, et le spectre de la famine est utilisé comme une arme de guerre. Aussi, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a pu parler des exactions commises au Tigré comme des actes de purification ethnique. En conséquence, plus de 2 millions de personnes sur les 6 que compte le Tigré ont été obligées de fuir vers le Soudan voisin.
Et aujourd'hui, où en sommes-nous du conflit?
Empêtré dans une guerre d'usure et face au sursaut du FLPT qui a repris du terrain, Abiy Ahmed a récemment proposé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu pour le moment refusé car les rebelles veulent le retrait des forces d'occupation ainsi que la restauration des autorités locales. En fait, la priorité de l'armée éthiopienne est à présent de protéger le grand barrage de la renaissance éthiopienne. Ce chantier titanesque, commencé en 2011, doit être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique et représente une chance énorme pour le développement de l'Éthiopie. Mais il pose de graves problèmes géopolitiques. En effet, le Soudan et l'Égypte, situés en aval de ce barrage sur le Nil, craignent, à juste titre, de ne plus bénéficier de ressources en eau suffisantes. Nous sommes donc là en présence des prémices de ce que nous pouvons appeler une guerre de l'eau, dont les contours se dessinent avec l'alliance annoncée des armées soudanaises et égyptiennes, prêtes à en découdre avec une Éthiopie affaiblie par ses désaccords intérieurs.
Eh bien, quel bilan ? Et alors, cette guerre, elle serait donc finie ?
Malheureusement, pas forcément, car Addis Abeba, siège du pouvoir central éthiopien, refuse de traiter avec le FLPT. De leur côté, les autorités rebelles demandent que le Premier ministre éthiopien et le président érythréen rendent des comptes. Le FLPT souhaite également que l'ONU organise une enquête indépendante sur les crimes commis sur les civils durant le conflit. De plus, le retrait protestataire récent de Médecins Sans Frontières, évoqué en introduction, illustre bien le fait que le gouvernement éthiopien continue de s'en prendre aux civils du Tigré en empêchant l'aide internationale de venir à leur secours.
Poker menteur.
Galade.
Bonsoir à toutes et à tous. Poker Menteur, votre émission maintenant bien célèbre sur Radio Calade 100.9. Nous sommes en juillet, c'est l'été, il fait beau, les cigales, le soleil, etc. Et nous avons l'habitude, durant cette période, de vous présenter un peu un sport, une activité un peu originale ou quelque chose dont on parle peu sur Radio Calade et même peu en général dans les médias. On en parle quand même, et donc ce soir, on va en parler avec Jérôme, qui est notre invité. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Patrick aussi.
Bonsoir. Mathieu. On peut rappeler le sport en question, parce que je l'ai dit en coup de vent.
Le sport en question, c'est le volleyball. Ah, ce volleyball qui est largement joué sur les plages du monde entier en été. Mm-hmm. Et qui est aussi un sport, évidemment, un sport de haut niveau, un sport olympique, un sport avec ses championnats, mais qui n'est pas très, très médiatisé, je le pense. Et on va essayer d'en dire un peu plus aujourd'hui avec notre invité. Et notre invité que je vais donc laisser se présenter à l'ensemble des auditeurs de Radio Calade. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, qui tu es, pourquoi le volleyball et ta personne, tout simplement.
Donc, bonsoir à tous. Jérôme Sauton, je vais avoir 50 ans cette année. Merci Patrick. Je suis enseignant en éducation physique et sportive à Villefranche. Et donc, effectivement, j'ai pratiqué le volley pendant de nombreuses années. J'ai commencé cette activité, j'avais une quinzaine d'années, ce qui est relativement tard pour commencer cette activité.
Ah oui, ça paraît très tard, je pense au football, on y fait commencer les bambins à quelques années.
Donc juste avant, j'avais fait une dizaine d'années de judo et je voulais un petit peu changer d'activité, voir un sport un petit peu plus collectif, de manière à être en contact avec d'autres personnes et puis essayer de vivre quelque chose de différent. J'ai suivi, comme la majorité des frères, dans une fratrie, le grand.
L'exemple du grand frère.
Qui faisait du volley depuis 2-3 ans déjà. D'accord. Et donc j'ai suivi mon frangin et je me suis inscrit dans une association sportive de volley à Rouen. J'ai commencé à Rouen, où j'ai joué pendant 2 ans. Et rapidement, je me suis retrouvé sur des stages de formation où la Ligue du Lyonnais rassemblait les meilleurs jeunes de cette génération.
D'accord.
Donc on faisait des stages pendant les vacances scolaires. Donc sur toute une année, toutes les vacances scolaires et puis les vacances d'été, ce qui représentait à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 jours de stage.
Ouais, donc tu passais à une pratique intensive là.
Disons que oui, sur les jours de stage, on partait pendant les vacances où on avait 4-5 jours de stage et on s'entraînait 6 heures, entre 6 et 8 heures par jour. Donc ça m'a permis d'être opéré très rapidement par un entraîneur de l'équipe de Lyon, qui à l'époque était la SUL, qui est toujours la SUL, et qui a jugé en moi avoir des dispositions.
Il y a vu un potentiel.
Un potentiel pour pouvoir fonctionner peut-être à haut niveau, puisque quand on est gamin, de toute manière, on n'a pas la possibilité de dire, il va être sportif professionnel, lui, c'est pas possible.
Et il y a une question aussi de croissance aussi, je pense, hein, croissance physique, je veux dire. Il faut peut-être sans doute avoir une certaine taille minimale quand même pour réussir dans le volet.
Disons que je suis arrivé sur Lyon, donc j'avais 15 ans, j'étais pas très très grand, je faisais 1m75 à peu près.
D'accord.
Et par contre, après, j'ai eu une poussée de croissance relativement importante. Et deux ans après, j'avais pris 20 cm et une quinzaine de kilos. Donc, je me suis retrouvé rapidement sur Lyon, où le club en question, l'ASUL, m'a fait rentrer en sport études. Donc, j'ai passé quelques années au lycée Jean Perrin en sport études, le fameux lycée Jean Perrin
que j'ai connu dans ma jeunesse.
Sport études, voilà, ouais. Où on était avec les
Oui, il y avait les sport études handball aussi
handball,
à l'époque.
Handball, garçon et féminin.
Exact.
Et les filles volaient étaient sur le lycée Boulevard des États-Unis, le lycée Lumière.
D'accord.
Donc voilà, on était un petit peu séparés.
D'accord.
Donc du coup, je suis arrivé sur Lyon en 88. Et donc j'ai intégré ce club où j'ai évolué en junior.
Donc l'ASUL, c'est un club assez renommé sur Lyon, hein.
Ah bah c'est le club de la région.
C'est le club de la région.
À l'époque, il y avait Grenoble qui était aussi en première division, mais c'était le club renommé de la région. C'était la référence de Rhône-Alpes. Ouais. Donc je me suis retrouvé sur une équipe junior. Et en parallèle, on jouait un championnat de National 3 senior.
D'accord.
Donc on faisait les deux. Donc à 16-17 ans, tu joues le samedi à Montpellier et puis le dimanche, tu montes jouer en Alsace.
Ouais, ça devait être très
mais
c'était
des progrès fulgurants parce que si tu as commencé à 15 ans et que déjà tu te permettais de jouer à un niveau quand même élevé au bout de...
Oui,
quelques
vrai.
Mois
ça
de pratique.
Ça fait une progression très rapide.
Ouais,
hein.
Disons que, oui, en trois ans.
C'est quand même extraordinaire.
J'ai évolué en National 3.
Oui.
Alors au début, comme la majorité des jeunes, on rentre un petit peu. Et puis au fur et à mesure, comme on a la facilité de s'entraîner tous les jours, deux séances d'entraînement par jour avec le sport études, plus les entraînements le soir avec le club, c'était relativement facile de progresser.
Ouais, ouais.
Et puis j'ai eu des entraîneurs, notamment un entraîneur qui a fait ce que j'ai été en tant que joueur de volley, qui m'a pris sous son aile et puis qui a fait ce que je suis devenu.
Okay. C'est parti, donc à la fois l'équipe senior National 3 et l'équipe junior.
Et l'équipe junior. Ouais. Donc pendant ces quelques années-là, j'ai fait deux années de junior avec l'ASUL. On a fait un titre de champion de France et puis un titre de vice-champion de France. Ensuite, les années de formation continuent et en 90, j'intègre l'équipe professionnelle. Donc je signe mon premier contrat stagiaire professionnel puisque j'ai 19 ans. Donc là, j'intègre l'équipe pro et en parallèle, je poursuis mes études à l'UFRAPS pour devenir enseignant. Mmh. Et là encore, au niveau universitaire, on jouait pas mal au volley. Donc on a été champion de France en 93 aussi. Et puis 94, on est finaliste.
Et c'était sans doute la configuration idéale d'être futur prof de PS et mener une carrière de haut niveau. C'était la bonne configuration pour pouvoir...
C'était la bonne configuration, effectivement. Et en plus, en tant qu'athlète de haut niveau, on avait des aménagements, des aménagements spécifiques au niveau des études, ce qui nous permettait de ne pas aller en cours, puisque de toute manière, mon temps était occupé par le volley le matin, l'après-midi, et puis les week-ends, on partait en déplacement. Donc, j'avais pas le temps d'aller en cours.
T'as tout ça à foutre.
J'avais que le volet. Ouais, c'était les périodes où je ne pensais et je ne vivais que volet.
Normal,
et c'était pas trop dur avec la famille, non? Ça s'est bien passé? Une forme de rupture quand même, non?
J'ai eu la rupture quand je suis parti de Roanne pour Lyon.
D'accord.
Et puis, non, après, moi, je savais où je voulais aller. Ouais. Je savais quelles étaient mes possibilités. Et j'ai fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc, psychologiquement, peut-être que des fois, ça a été un petit peu difficile. Mais c'est ce qui a forgé mon caractère. Et c'est ce qui a fait, entre guillemets, ma force. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à faire ce que j'avais entrepris. Donc non, c'était un petit peu compliqué, mais c'était pas...
C'est de la maturité quand même, c'est bien d'être mature à
disons, quand
même
tu pars de chez toi à 16-17 ans et que tu te retrouves seul, ça te met un coup de pompe dans le derrière, comme
c'est
on
vrai,
dit, et ça te fait évoluer de manière un peu plus... Un peu plus vite, ouais, effectivement.
Et c'est le cas de beaucoup de jeunes hein, qui ont dans plein de sports, qui ont comme ça ce passage au sport de haut niveau. Il y a cet aspect de rupture qu'ils doivent apprendre à gérer hein, quasiment systématiquement, en fait.
Ils n'ont pas le choix.
Ouais, ouais.
Alors maintenant, les gamins sont vachement plus suivis dans les centres de formation.
Ouais.
Ils ont des éducateurs, il y a des psychologues, il y a des infirmières. Ils sont vraiment choyés. Ils font venir les parents très régulièrement de manière à ce qu'il n'y ait pas une rupture concrète avec le cocon familial. Mais maintenant, c'est plus facile que ça ne l'était il y a quelques années en arrière. Ouais.
D'accord, voilà. D'accord. Alors ta carrière, c'est parti, raconte-nous.
Et du coup, je joue une dizaine d'années à la SUL, et puis j'arrive sur la fin d'un cycle où je ne rentre plus dans le
t'as,
critère.
T'as environ 30 ans à cette époque alors ?
Non, je suis un petit peu plus jeune.
Ouais, un peu plus jeune. T'as commencé avant 20 ans.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Donc du coup, nouveau challenge. Je signe à Saint-Étienne. D'ailleurs, je suis l'entraîneur qui m'a formé à Lyon. Je signe à Saint-Étienne pendant 2 ans.
D'accord.
Donc c'était deux années bien pleines, puisque en parallèle, j'intègre le bataillon de Joinville, donc l'équipe de France militaire de volley, où j'ai la chance en 95 de préparer les championnats du monde.
T'avais quel âge là ?
24 ans.
D'accord, non, ok,
24
t'es
ans,
encore jeune.
Ouais.
D'accord.
Donc du coup, championnat du monde à Rome, on va partir 15 jours avec tout le staff militaire. Donc il y avait toutes les équipes de France, le basket, le foot,
sympa.
Le tennisman, il y avait les athlètes, absolument tout. Donc là, ça a été relativement sympa. Et puis au retour de ces deux années de Saint-Étienne. Donc on subit une descente en division inférieure et puis je suis encore en pleine possession de mes moyens physiquement, donc je relève un nouveau challenge où je reviens un petit peu sur la région lyonnaise où je signe.
D'accord.
À Rieux-la-Pape.
D'accord.
Et là je vais rester 7 ans à Rieux-la-Pape où on va monter en National 1, on va redescendre en National 2, donc avec des hauts et des bas, mais avec un groupe de copains vraiment soudés. Donc là, c'était la fin du haut niveau entre guillemets.
D'accord.
Et puis à partir de là, j'en arrive un petit peu pas à bout, mais je viens d'avoir une petite fille, et puis les 3 premières années de sa vie, les entraînements tous les jours, les déplacements.
Là, t'as passé la trentaine là.
Ouais, j'arrive à 30 ans, puisque j'ai ma première fille.
Ah oui, t'as 30 ans.
Donc du coup, je commence un petit peu à me dire que je vais arrêter. Et donc, je m'arrête pendant 2 ans.
Mm-hmm.
Du coup, je m'installe dans le Beaujolais, en Calade.
Ouais.
Et puis, au bout de 2 ans, j'ai un joueur avec lequel je n'ai jamais joué, mais contre lequel j'ai joué, qui prend la responsabilité de l'équipe masculine à Villefranche-sur-Saône et qui me sollicite pour le rejoindre et puis lui filer un coup de main en me proposant un challenge, en me disant, tu vas venir filer un coup de main aux jeunes, j'ai besoin de toi. Alors je lui explique qu'il connaissait mon parcours, mais je lui explique que ça fait 2 ans que je n'ai pas joué.
Mm-hmm.
Donc je me remets en condition pendant la période estivale et puis je rattaque avec le groupe fin août. Et puis, je commence à me rentraîner au début une fois par semaine, puisque j'avais ma deuxième fille qui était arrivée. Donc, le contexte familial, donc mon épouse très compréhensive me dit écoute, de toute manière, t'as ça dans le sang, donc tu t'es arrêté un certain temps, maintenant tu rattaques. Donc, j'ai rattaqué un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé très rapidement d'un entraînement à 2 entraînements, au match à la maison et puis après au match à l'extérieur. Donc, c'était reparti
à
100%. Donc là, j'avais 37 ans. Et puis j'ai joué avec ce groupe-là jusqu'à 43 ans. Donc là, on était en 2000.
Tu étais le vétéran club et peut-être même de tout le championnat.
C'était du championnat, non, parce
non,
que
il y en avait d'autres.
J'avais un collègue avec lequel j'avais joué à Saint-Étienne qui jouait dans l'est de la France et on se rencontrait.
Vous aviez à peu près le même âge.
Il avait à peu près le même âge.
D'accord.
Que moi. Donc du coup 2014, je mets fin à ma carrière de compétition, j'allais dire.
Belle carrière.
Je m'arrête complètement. Ouais, j'étais assez satisfait. J'avais passé de bons moments sur le terrain. Et puis, de fil en aiguille, le président du club me propose de reprendre l'entraînement de l'équipe 1 l'année d'après. Mm-hmm. Donc, je reprends l'entraînement de l'équipe 1 l'année d'après.
Tu veux dire devenir entraîneur ?
Je suis devenu entraîneur l'année d'après, ouais. Tout à fait. Donc, le groupe dans lequel j'ai évolué pendant quelques années, je me retrouve de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que je vais plus dans le vestiaire.
Mais en même temps, vu ton âge et ta sans doute maturité, c'était une suite logique.
C'était ça.
Je pense pas que ça a été une grosse rupture pour les autres.
Où, quand tu es au filet et puis que tu regardes à gauche et à droite et puis que tu as deux gamins, quand tu additionnes leurs âges.
T'arrives pas au tien ?
C'était pas le mien. Je me suis dit, c'est peut-être temps que j'arrête.
Il est temps que je passe de coach.
Il est temps que je passe le relais à des jeunes joueurs. Donc du coup, on se retrouve propulsé à la tête de l'équipe et on a la chance de gagner le championnat et de monter en National 1 la saison d'après.
Donc ça a été une belle année d'entraîneur débutant.
C'était une transition d'enfer. Mm-hmm. Bon, c'était beaucoup plus prenant. Que le fait d'être joueur, la préparation des séances, la gestion
du
terrain,
le boulot de coach.
Passer du joueur où tu peux te lâcher, taper dans les ballons et te retrouver sur le banc où tu as les mêmes sensations, la même montée d'adrénaline,
mais
tu peux pas l'expulser. Donc,
voilà.
C'était un petit peu compliqué.
Et tu dois te contrôler.
Ouais.
Les joueurs peuvent se lâcher, mais toi, tu dois te contrôler quand
tu
es coach.
Alors, je ne parvenais pas tout le temps à me contrôler, parce qu'on dit que le caractère revient très, très souvent
au galop,
et ça a été très souvent le cas. Mais ça m'a permis de mûrir et puis de me remettre en question par rapport à ça. Donc, c'était relativement intéressant.
Très bien. On va faire une première pause musicale et on reviendra de toute façon à travers ton parcours sur le club qu'on n'a pas beaucoup cité, mais on va en parler de façon plus détaillée. Alors, quelle pause musicale ? Comme d'habitude, c'est la surprise. C'est parti, Mathieu.
Qui mouille le maillot ? C'est l'équipe de France de volley, team Yabou. Personne nous suit depuis qu'on a décollé. Europe mondiale, World League, pas de blague, c'est sur Bein. Sa game grave, y'a pas de place. Regarde, on est sur l'équipe. Wesh, tu vois qu'on est sûr de nous. Les JO, on est sur le coup. Toutes les équipes nous mettent sur écoute. Veulent tous être la team Yabou. On gagne, on fête, on perd, on meurt. Regarde, en fait, on tord les 7. Si tu perds, tu sors. Et c'est le sport, gros. Regarde ma team. On revient plus fort à chaque échec. Ils ont du mal à le dire. Chez nous, c'est maladif. Poto, c'est ça la diff. Moi je meurs pour lui, lui meurt pour l'autre. Gros viens, on prend la prime. Faut lever des coupes comme les Brésiliens, les Russes, les Américains. La semaine prochaine c'est quel continent, c'est quel méridien. Trop de sacrifices, t'as pas idée. Gère les Caraïbes à chaque victoire pour la valider.
That kind of player, we're gonna take that thing from you. We're gonna take that thing for sure.
On a fait 100 000 Airbus. On arrive, on prend le bus. Décalage, on dort plus. Entraînement, je m'en sors plus. Mais faut se donner pour avoir les mêmes médailles que Teddy Tamgo. Y'a la piscine à l'hôtel, mais on a même pas le temps. On dort, on game, on dort, on game, on dort, on game. On perd, on mène, on perd, on mène, on mène, on mène. Nègre, respecte mon sport. Allez le dire à tous les médias. J'aimerais voir la team Yabou dans tous les journaux, toutes les rédacs. Et j'en fais un son pour pas oublier. Les sous, c'est bien, mais c'est pas ça qui nous a liés. Qu'est-ce qui pourra nous plier? Rêve du podium et du billet. Jess Scott, Billion, appelle qu'on signe des sponsors à la Fédé. On est mignon, fait des dingueries sur les terrains. Les efforts plairent, on se lève les matins comme une R. Lève des kilos, fait des tractions. La réussite n'a pas de secret. Faire de personne, donne du respect. Cause we are that kind of player. We're gonna take that ring from you. We're gonna take that thing for sure. You better worry about us. Messing with no club, no eating in the block. Chilling with my snapback, waiting till it pay back. Cause we are we not that kind of player.
We're gonna take that ring from you. We're gonna take that thing for sure. You better worry about us.
Yeah. Pour la team Yarbou. Pour tout le volet français. Pour tous nos gars qui sont pas là avec nous. Monsieur José Trèfle. Monsieur Marien Moreau. Monsieur Samuel Touya. Jonas Aguenier, Toifa Takaniko, Raphaël Redwitz, Nicolas et Thibaut Rossa, Hubert Renault, Philippe Tutoga, monsieur Gérald Hardy des Sources. Pour tous ceux que j'oublie, merci à tout notre staff pour nous permettre de vivre ce qu'on est en train de vivre. On va réaliser nos rêves. Team Yabou, yes. Monsieur Wallace au refrain.
Bye mon négro.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9, votre émission mensuelle favorite. Ce mois-ci, nous parlons d'un sport. Vive l'été, vive le sport, le volleyball, avec notre invité Jérôme Sauton. Dis donc, Jérôme, on a écouté un truc. Alors, tu m'as expliqué, hein, parce que moi, j'y connais rien. C'est un certain Erwin Engapet qui nous interprétait Team Yavbou. Dis-nous, c'est quoi ce Gugus et c'est quoi ce Team Yavbou?
Alors, la Team Yavbou, c'est le surnom que l'équipe de France, il y a 7-8 ans, s'est donné. C'est la période où l'équipe de France a commencé à avoir de bons résultats.
D'accord.
Ils ont commencé à gagner des ligues mondiales. Derrière, ils ont gagné les championnats d'Europe. Et c'était vraiment une équipe de copains.
D'accord.
Alors Yavbou, c'est le verlan de bouillave.
D'accord.
Qui, en termes corrects, veut dire on va tous les défoncer.
D'accord. C'était des termes utilisés en volley.
Voilà. En termes polis.
Et Erwin Engapet, c'est un joueur de l'équipe de France, c'est ça?
C'est le joueur de l'équipe de France, c'est le leader de jeu de l'équipe de France, c'est la star. C'est un joueur qui, à mon avis, fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde actuellement.
Oui.
Ok, très bien. Donc il a un deuxième talent, il sait
chanter et rapper. Et je pense qu'on va revenir, Patrick et Jérôme, sur le jeu lui-même. Alors Jérôme, tu peux nous présenter un peu l'historique du volleyball rapidement?
Alors c'est un sport qui a été inventé par un prof d'éducation physique.
D'accord.
Qui s'appelle William Morgan en 1895 aux États-Unis. En fait, il s'est inspiré des règles de plusieurs sports qui ont à peu près été inventés en même temps, notamment le basket et puis le badminton. D'ailleurs, le premier filet de volley qui a été mis en place, c'était un filet de badminton. Donc à l'époque,
un peu surélevé, je pense. Hein,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être à 1m50 sur le badminton, il était à 1m98, voilà. Donc à peu près 2 mètres. Les règles étaient un petit peu particulières puisqu'il fonctionnait sur un système de rotation avec un nombre de services de chaque côté. Donc très rapidement, ils ont fait en sorte pour que le volley puisse s'émanciper un petit peu, de déterminer des règles de jeu bien précises qui soient uniquement réservées au volleyball. Mm-hmm. Donc le filet a changé, la hauteur du filet a changé.
Elle est à combien actuellement?
Alors actuellement, pour les garçons, on est à 2m43 et puis pour les filles, on est à 2m24.
D'accord.
Alors après, c'est dégressif en fonction des catégories d'âge.
Bien sûr.
Donc plus on est jeune, plus le filet est bas. Mais quand on est à l'école de volley, le filet est à 2 mètres et puis on monte progressivement en fonction des âges.
Et rappelle-nous, donc ça a démarré d'emblée à 6 joueurs. Hein, c'est bien 6 joueurs sur un terrain par équipe.
Alors à l'époque, c'était le nombre de joueurs était illimité.
Ah bon?
Voilà. Tout ce qui voulait rentrer sur le terrain.
Donc en fait, il y avait un système qui était un petit peu anarchique et rapide. Rapidement, ils ont essayé de cibler et de cadrer un petit peu tout ça. Et rapidement, on est arrivé à 6 contre 6, avec un système de rotation, etc.
Ouais.
Et puis à l'époque, pour marquer un point, il fallait avoir le service.
Bien sûr, j'ai connu ça dans les années 80. D'ailleurs.
C'est ça. Et du coup, cette règle a évolué, puisque maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de faire découvrir le volleyball le plus possible et en parler médiatiquement. Donc, ils sont passés à un système de tie-break, c'est-à-dire que tous les points comptent.
D'accord.
Et ça, c'est depuis quand, ça, Jérôme, à peu près?
Les années 2000.
Donc c'est relativement récent.
Ça fait une vingtaine d'années.
T'as encore connu les anciennes règles.
Ah bah oui, j'ai connu les anciennes règles, bien sûr.
Qu'est-ce que ça a apporté, toi, avec ton œil de pro, ces nouvelles règles? Est-ce que ça a apporté un plus et quoi comme plus?
Alors, ouais, effectivement, ça a apporté un plus. Au niveau télévisuel, c'était beaucoup plus facile à comprendre. Le système d'avoir le service pour marquer un point, les gens n'étaient pas forcément dans l'optique de comprendre exactement. Alors que là, une fois que le ballon tombe par terre, une fois qu'il est dans les gradins, on sait qui l'a envoyé, on sait qui a le point. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre qui a marqué le point.
D'accord. Et je crois qu'à l'origine, quand le ballon donc, était let, quand il touchait le filet, je crois que le point ne comptait pas. Donc le jeu était arrêté.
C'était faute, oui, tout à fait.
C'était une faute. Alors que maintenant, je crois que ça compte.
Le filet fait partie intégrante.
D'accord. Ça aussi, c'est une nouveauté.
Alors, il y a eu un mix par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur avait le droit de toucher le filet, c'était pas faute. Et là maintenant, ils sont revenus à une règle plus conventionnelle.
Parce qu'ils allaient un peu trop franco.
Disons que non, mais c'était sur des actions de compte, c'était sur le haut du filet. Mm. Si tu touchais la bande blanche du filet, forcément compté comme une faute. Mais là, ça a de nouveau changé. Mais effectivement, le ballon, s'il touche le filet,
il fait partie du jeu.
Il fait partie du jeu, ça continue. Donc voilà. Après, il y a eu l'apparition du libéro.
Donc, explique-nous un peu.
Alors, le libéro, c'est un joueur qui, sur le terrain, a un maillot d'une couleur différente et qui peut rentrer systématiquement, quand il veut, sur n'importe quel joueur qui est derrière. Alors, en général, il rentre sur ce qu'on appelle les contreurs centraux. C'est ceux qui sont au milieu du filet et qui, en général, font bien plus de 2 mètres et qui, derrière, ont un peu plus de difficulté à défendre les ballons et à se déplacer rapidement. D'accord. Donc, ça a permis à un type de joueur de rentrer sur le haut niveau. Puisqu'il faut considérer que, quand tu joues à haut niveau, des joueurs de petite taille, à l'heure actuelle, ne peuvent pas faire leur trou.
Ouais,
alors,
bien sûr.
C'est qu'ils ont un don particulier ils sont physiquement exceptionnels. Donc là, ça a permis à des joueurs de petite taille de montrer leur talent, notamment sur la réception et sur la défense.
D'accord. Donc ils sont plus spécialisés sur les trois postes qui sont plus loin du filet.
Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Leur job, c'est ils sont derrière et ils ne font que de la réception.
D'accord.
Et que de la défense. Ils ne passent jamais au service et ils ne passent jamais à l'attaque.
Tu peux nous
joueurs
rappeler
spécialisés.
Il y a toujours trois passes possibles, c'est ça?
C'est ça. Trois contacts de balle pour pouvoir envoyer le ballon de l'autre côté.
Ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé.
Sans compter le contre.
Alors le contre ne fait pas partie d'une touche de balle.
D'accord.
C'est-à-dire que deux joueurs qui peuvent toucher la balle. Tu pourrais penser que ça fait 2 touches de balle, mais en fait pas du tout.
D'accord.
Donc à partir du moment où les joueurs sont au contre, ils sont plus en contact avec le sol, la balle est touchée. Derrière, ça peut repartir sur 3 touches de balle.
Et c'est ce qui rend d'ailleurs le volley-ball spectaculaire dans ces cas-là. Quand on récupère un contre, on imagine bien que c'est des points qui peuvent être vraiment avec un ballon qui peut partir loin derrière la zone de jeu, repartir dans l'autre sens, et c'est ce qui donne sens au spectacle.
Ouais,
est-ce qu'il y a ça comme particularité du volley, j'y pense à l'instant, là, c'est qu'en fait on peut aussi aller récupérer la balle même en dehors de la zone de jeu,
on
a le droit, du foot ou du basket où c'est interdit.
La seule différence, c'est que tu peux pas prendre appui sur quelque chose pour aller jouer la balle.
D'accord, c'est-à-dire tu peux pas monter sur une chaise.
Non, t'as les panneaux publicitaires. C'est très régulièrement que les joueurs partent au-delà des panneaux publicitaires, sautent, frappent la balle, la ramènent dans le terrain, et puis le jeu continue.
Impressionnant.
Donc sur ce côté-là, c'est le côté un petit peu spectaculaire du volley, sachant que maintenant les joueurs ont la possibilité de défendre et de jouer avec les pieds.
Ah bon ?
Ouais.
Oui, oui.
Ils ont le droit de jouer avec les pieds.
De récupérer la balle avec le pied?
Oui, tout à fait.
Ouais, moi, j'arrive, je tombe, j'atterris, j'étais pas au courant. Incroyable.
Alors toi, Jérôme, tu as commencé donc environ vers l'âge de 15 ans, mais quel est l'âge idéal pour commencer le volleyball?
Alors disons qu'il n'y a pas vraiment un âge particulier. On peut commencer très tôt. On peut commencer dans des écoles de volley où on va accueillir de jeunes enfants à partir de 4-5 ans. Et là, on va travailler, les entraîneurs, les éducateurs vont essentiellement bosser sur de la motricité, sur de la découverte du jeu. Ils ne vont pas forcément rentrer dans les règles du volley particulières.
Pas trop tôt.
Non, c'est effectivement beaucoup trop tôt. Donc, ça va être à base de ballons de baudruche. Ils ont un système de ballon qui est beaucoup plus léger que le ballon classique.
Côté ludique, quoi.
Voilà,
en fait.
Côté ludique. Oui. Après, si tu veux rentrer dans la compétition, à partir d'une dizaine d'années, on peut commencer à à rentrer dans la compétition. C'est un système de match où on joue en 2 contre 2. Mm-hmm. Et puis voilà, progressivement, après, on rentre plus dans le vif du sujet.
Et en nombre de licenciés ou de pratiquants, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, sur la France, il y a à peu près 145 000 licenciés. Mm-hmm. Après, dans le monde, il y a 35 millions de licenciés. Mais tu le disais, au début de l'émission, il y a à peu près 260 millions de pratiquants.
C'est ça, bien sûr. C'est un sport très pratiqué, voilà, notamment, comme disait Franck, pendant les vacances, sur les plages, etc.
C'est paradoxalement le premier sport pratiqué dans le monde.
Tout à fait, à titre de loisir, voilà.
Tout à fait. N'a pas joué au volley sur la plage?
Exactement.
Ça joue de 7 à 77, voire
certains. Et nous, sur les plages du Nord, il y a vastes plages où on peut envoyer le ballon très très loin pour embêter les copains. Ça m'appelle mon enfance.
Ouais. Donc en plus, c'est le premier sport universitaire et c'est le deuxième sport scolaire.
D'accord. C'est vraiment très pratiqué au niveau scolaire.
Tout à fait. Mmh. Le paradoxe, c'est que c'est un sport qui est très très peu médiatisé. Et encore que maintenant, avec les résultats de l'équipe de France,
on fait des efforts, mais bon,
on en voit de plus en plus.
Mmh. Et plus de filles ou de garçons, ou égalité, ou
c'est à peu près.
C'est pareil.
J'allais dire, c'est à peu près similaire. J'allais dire que les filles prennent de plus en plus d'importance, mmh, puisque c'est une activité qui est relativement intéressante, puis qui est pas très violente, j'allais dire.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de contact, donc c'est beaucoup plus facile d'accès.
Ouais.
Donc non, je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre les pratiquants masculins, le nombre de pratiquants masculins avec le nombre de pratiquants féminins.
Oui, et on pense que c'est un sport qui peut se démocratiser facilement parce qu'il n'est pas onéreux. Je pense que l'inscription matérielle, ça ne doit pas coûter une fortune.
Non, c'est pas très cher par rapport à certaines licences et d'autres activités sportives. Effectivement,
oui, je peux vous dire que justement, quand on a fait une mission sur le bowling, ça coûte coûte bonbon.
Non, je suis d'accord. Alors après, il y a les installations.
Oui,
bien sûr. Nous, on a la chance d'avoir les installations municipales qui sont grassement prêtées aux différentes associations, notamment le volley.
Et au niveau international, la France se classe comment par rapport au monde? Quelles sont les grandes nations de volley?
La France commence à faire partie des grandes nations du volley depuis le morceau de musique qu'on a écouté et l'arrivée de cette génération dorée.
C'était quelle année alors? Quelles années?
2015 à peu près. Mmh, donc là, ça a commencé, c'est la première année où ils gagnent la World League. Donc mm-hmm, c'est entre guillemets l'équivalent des championnats du monde, même si c'est pas les championnats du monde. Donc ils ont fait des performances par rapport à ça. Donc la World League 2015, ils ont gagné en 2017, ils ont été champions d'Europe. Et la France a commencé à compter sur le plan international. Mm-hmm. T'as les Brésiliens qui sont au-dessus du lot pour mm-hmm l'instant, puisque c'est les champions olympiques en titre. Mm-hmm. Et puis les Polonais qui sont double champions du monde et qui ont gagné les derniers championnats du monde. Après, on a les équipes comme la Russie qui est très performante.
D'accord.
Et puis les Italiens aussi qui commencent à relever un petit peu le nez, parce qu'ils étaient les rois dans les années 90.
D'accord. On fait une deuxième pause musicale, Franck ?
Deuxième pause musicale qu'on va découvrir tout de suite.
Sabrina's really like dolphins.
Et Sabrina aime bien les dauphins.
Teachers prefer their girl students.
Les profs de fac, c'est plutôt leurs étudiantes.
Designers have Nick Drake badges.
Les graphistes ont des badges de Nick Drake.
Coincidence.
Les Italiennes sont malheureuses. Quand les Italiens ont un malheur, souvent le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs.
Jessica's always have tattoos.
Les Jessica ont un tatouage.
Zombie readers hate Christmas trees.
Les lecteurs de Welbeck font rarement un sapin.
Vegetarians wear fair trade shoes.
Les végétariens ont des chaussures commerce équitable.
Don't kid me, please.
Les Milanaises sont malheureuses. Quand les Milanais ont un malheur, souvent le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs.
Adults have swimsuit collections.
Les Anna ont quand même pas mal de maillots de bain.
McCartney fans pay bus tickets.
Les fans de McCartney compostent leurs billets.
Lennon fans do with discretion.
Ceux de Lennon aussi, mais plutôt en cachette.
Have you noticed?
Les Turinoises sont malheureuses quand les Turinois ont un malheur. Souvent le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs. Les Italiennes sont malheureuses quand les Italiens ont un malheur. Souvent le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs.
Poker Menteur.
Poker Menteur. Calade. Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée au volleyball avec notre invité Jérôme Sauton, qui a une longue carrière professionnelle et qui est ensuite devenu entraîneur du VBVB. On va parler de ça. Mais avant, nous venons d'écouter Vincent Delerme pour une chanson avec un titre à rallonge. Le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs. C'est trop injuste. On y va, Franck ?
Ils en ont de la chance. Alors, Jérôme, le volleyball Villefranche-Beaujolais, le VBVB, c'est quoi le VBVB ?
Alors, c'est une association sportive de volleyball, comme, oui. Comme tu l'as dit, qui a été créée en 1957. La saison dernière, on avait 250 licenciés sur le club,
ouais.
Qui représente à peu près, je dirais, une quinzaine, entre 15 et 20 équipes sur l'ensemble du club.
Ça part
de l'école de volley jusqu'aux équipes seniors.
D'accord.
Avec deux, trois équipes.
Gros club alors.
C'est un club qui commence à prendre un petit peu, d'envergure, effectivement.
Et vous jouez dans quelle salle ?
Alors, on joue essentiellement sur Arnas, à l'Escale.
Oui, très bien.
À l'Escale,
voilà.
Oui.
Voilà. C'est mm-hmm. là-bas que les matchs de championnat sont faits.
Entre deux piqûres de Covid.
C'est ce que j'allais dire.
Alors, en ce moment, c'est un petit peu compliqué puisque les deux salles sont prises. Mais on va récupérer la salle de compétition à partir du mois d'août, à partir de fin août, quand la préparation physique va reprendre avec les garçons et les filles. Ouais.
D'accord.
Et toi, tu as bien connu, tu connais bien les filles, donc tu as entraîné. Alors, ça fait combien de temps que tu entraînes les filles ?
Bien les filles, Jérôme.
Les filles, ouais, Jérôme. Je précise.
Ouais, j'ai que des filles à la maison. J'ai entraîné les filles pendant quelques années.
Enseignant avec évidemment beaucoup de femmes autour de lui.
C'est ça, tout à fait.
Oh là là.
Tout à fait. Ouais.
Ta vie est une souffrance.
C'était terrible.
Ouais.
Donc ouais, j'ai récupéré l'équipe féminine en février 2017. L'entraîneur devait se faire opérer d'une hernie discale et puis avec des complications, donc j'ai fini la saison. Et puis, du coup, il n'a pas pu reprendre l'année d'après. Et j'ai continué de travailler avec les filles. Et depuis que j'ai eu ce groupe-là, j'ai passé 4 saisons sans perdre un match. On a fait 4 montées consécutives. Donc, on était en Régional 2. On est passé de la Régional 2 à la Régional 1. De la Régional 1 à la Pré-National. Pré-National à la National 3. Et National 3, National 2. Maintenant, l'équipe évolue en National 2, ce qui correspond au troisième niveau national français.
Bon, bah alors, s'il y a des filles un peu sportives sur Villefranche, allez jouer au volley, vous allez tomber sur des cadors qui vont vous tirer vers le haut.
Ouais,
mais on peut saluer les filles quand même. Bravo.
Elles ont fait un parcours exceptionnel.
Ah ouais,
c'est exceptionnel. Faire 4 montées consécutives comme ça, je ne sais pas si ça s'est beaucoup vu. Même dans d'autres cas de figure et dans d'autres sports.
Si elle nous écoute, je tire chapeau vraiment mon chapeau.
Chapeau les filles du VBVB.
Absolument.
Petite question, manager des garçons et des filles, c'est quoi la différence principale ? Coacher.
Alors, les garçons, on est plus entiers, je suis mm-hmm. plus moi-même dans le rapport.
D'accord.
Parce que le langage est un peu plus cru.
Mm-hmm.
Avec les demoiselles, je fais un peu plus attention.
D'accord.
Et c'est beaucoup plus difficile de coacher les filles parce que les filles, il faut qu'elles comprennent pourquoi on fait ça.
D'accord.
Alors que le garçon lui, on met une situation en place, c'est comme ça. Alors que les filles sont plus dans la recherche, c'est un volet qui est un peu plus intellectuel, dans le sens où elles cherchent à comprendre pourquoi on fait comme ça. Donc voilà, sur mes préparations de séance, j'ai eu quelques difficultés au début. J'étais un petit peu pris au dépourvu.
Ça t'a surpris au départ?
Complètement, ouais. Et puis finalement, je m'y suis habitué et voilà, je savais que quand je mettais une situation en place, si quelque chose n'allait pas, après ça faisait aussi partie de mon discours. Je suis quelqu'un qui est relativement ouvert et voilà, je ne détiens pas la science infuse du volleyball. J'en apprends autant de mes joueuses que je peux leur en apprendre. Enfin, en l'occurrence, c'est ce que j'espère. Et du coup, il y avait beaucoup de communication et il fallait que j'explique pourquoi je voulais faire comme ça.
J'ai
passé 4 années.
Donc il y a un côté pédagogique plus développé donc quand on entraîne a priori les filles que les garçons.
Ouais.
D'après ce que tu nous dis. Ouais.
Ouais. Alors après, entraîner les garçons. Moi, je reste un jeune entraîneur, paradoxalement, mais je base mon entraînement et ma pédagogie, ma manière de fonctionner, mes systèmes de jeu, etc., essentiellement par rapport à mon vécu de joueur.
Bien sûr.
Et
bien sûr.
Par rapport aux gens qui ont pu m'entraîner.
Il y a une vraie chaîne de transmission, de toute façon, je pense, dans le coaching, comme dans plein de domaines. Je pense que tu bénéficies de la transmission de tes coachs et puis tu en as fait quelque chose et toi, tu vas aussi transmettre.
Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Et puis surtout, je prends beaucoup des joueurs et des joueuses que
également
j'ai sous
aussi,
ma responsabilité.
Ouais. Il y a aussi lien. C'est pas évident qu'on y pense a priori qu'il y a aussi cette circulation entre joueurs et coachs.
Ouais, parce qu'en fait, j'entraînais des filles. J'avais 2-3 filles qui avaient joué à haut niveau, qui avaient leur expérience, qui avaient un vécu à ce niveau-là. Et je me reposais de temps en temps sur leur discours parce que ça fait partie aussi du jeu. Et c'était hyper intéressant. C'était
d'accord.
Hyper intéressant.
Un vrai voilà. Échange. Ok.
Et alors justement, par rapport à ces résultats, est-ce que tu as eu des sollicitations, on va dire, d'autres clubs, voire de zones lointaines qui auraient pu s'intéresser à tes résultats, te proposer des contrats?
En tant que coach, tu veux dire, Franck?
En tant que coach, absolument.
Oui, en tant que coach.
Alors non, pour être tout à fait honnête, non, parce que au début, j'ai commencé au niveau régional. Mm-hmm. Ensuite, on est arrivé au niveau national, et on sait tous ce qui s'est passé en mars 2020 avec l'apparition du Covid.
Ouais.
Donc la crise sanitaire nous a détruit la fin de saison et on s'est arrêté à milieu de saison. Donc on a eu la chance d'avoir la saison validée pour notre montée en National 2. On s'est dit, ça va repartir correctement et on va se faire une saison pleine. Et en fait, on a commencé la saison et la préparation fin août et dernier match le 1er novembre, alors qu'on avait fait 3 matchs de championnat. Donc rapidement, saison blanche.
Ouais.
Donc là, au niveau national, j'ai pratiquement peu joué. Enfin,
oui, de toute façon, on est sur des années en suspens.
Non, être contacté par des clubs, par d'autres clubs, non, ça m'est pas arrivé. Puis pour être tout à fait honnête, je suis installé dans la région depuis un certain temps. J'ai mes habitudes, j'ai ma vie qui est ici. Je suis au club de Villefranche depuis 2008. C'est un club auquel je me suis attaché, où j'ai vécu des choses sympas et en tant que joueur pour la fin de carrière et en tant qu'entraîneur par la suite. Non, je suis hyper bien dans la région. Et même si je devais être sollicité par d'autres clubs autres qu'à Villefranche, je répondrais.
Et tu es bien au centre scolaire Notre-Dame aussi.
Et je suis au centre scolaire Notre-Dame depuis quelques années aussi, effectivement. Oui.
Je voulais revenir sur quelque chose. Je ne t'ai pas interrompu à ce moment-là parce que je pensais qu'on aurait l'occasion maintenant d'en parler. Quand tu es devenu professionnel, donc tu étais jeune, premier contrat professionnel. Et moi, en fait, très naïvement, connaissant très peu le volet, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a... une économie suffisamment solide pour avoir des clubs professionnels. On est au début des années 90, là, quand ça t'arrive. Ouais. Donc, il y avait déjà, à cette époque, des clubs professionnels en volley, alors.
Alors, c'était les premières années du professionnalisme en volley.
Ouais.
Ça date de 86. Il y a une petite anecdote qui est assez sympa. C'est qu'en 86, les championnats du monde étaient en France. Et l'équipe de France devait se préparer pour ces championnats du monde. Et la fédération a sorti une douzaine de joueurs du système des championnats. Ils les ont isolés
Je crois me souvenir, effectivement.
Ils les ont isolés, c'est-à-dire que les joueurs avaient tous des situations professionnelles.
Ils
ont raccroché leur situation professionnelle. Ils ont été payés par la fédération, qui à l'époque, ils leur donnaient à peine le SMIC. C'était assez dérisoire. Uh-huh. Et ce sont des joueurs qui se sont préparés pendant 18 mois et ils s'entraînaient deux fois par jour.
Tu te souviens, Franck, de ça ?
Bien sûr.
C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Je crois qu'on ne l'avait jamais vu, même dans d'autres sports.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, du coup,
c'était assez audacieux.
Ils ont préparé ces championnats du monde pendant 18 mois.
Je me souviens très bien de ces championnats du monde, parce qu'à l'époque, donc, j'étais dans le Nord et j'ai assisté à plusieurs matchs qui avaient lieu à Tourcoing. Et à l'époque, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'avais vu l'équipe du RSS qui avait joué contre la Chine Taipei, contre Taïwan. Donc ça remonte. Hein. Et à l'époque, il y avait déjà, enfin, il y avait encore ce duel Est-Ouest entre les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre, comme on retrouvait ça dans les autres sports co.
Tu dis qu'ils ont fait ça. En quoi ça a enclenché la professionnalisation des clubs, ça ?
Bah disons que quand tu te retrouves dans cette situation et puis que tu commences à vivre de ta passion, les joueurs se sont plus ou moins organisés. Et puis, je pense que les clubs qui étaient dans les alentours, notamment au niveau du championnat de France, ont commencé à rentrer dans le système du professionnalisme. Alors un professionnalisme qui maintenant est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important parce qu'il y a un petit peu plus d'argent.
D'accord.
Alors en France, il y en a un petit peu, mais c'est essentiellement les pouvoirs publics qui financent et puis ou des mécènes.
Il y a pas un peu de droit télé aussi ? Non, ça commence pas un petit peu ?
Ah, ça commence un petit peu, mais c'est,
L'edge,
tu vois, sur le championnat de France, c'est l'équipe 21 qui télévise.
Les chaînes qui ont beaucoup de moyens.
Voilà,
on verra pas ça sur TF1 à 20h30 un dimanche
soir. Non, ou même sur Bein Sport, des choses comme
alors,
ça.
Alors Bein Sport, s'il passe les championnats, il passe les championnats
internationaux.
Champions League, voilà. Donc là, sur certains championnats.
Je pense qu'il y a une grande méconnaissance des règles, de toute façon, du volleyball en France. Hein.
C'est possible.
Ah oui, je pense.
C'est possible.
Après, on a tous vu ça, ou pratiqué sur la plage. On connaît globalement comment ça fonctionne, quoi.
On en sait un peu plus maintenant, je crois. Hein,
oui,
Patrick,
tout à fait.
Toi aussi, d'ailleurs.
Oui, parce que j'avais perdu le fil, notamment des règles, depuis quelques temps. Donc, Jérôme, nous allons te remercier pour cette présentation de ce sport, le volleyball, et de la belle aventure du VBVB, le volleyball Villefranche-Beaujolais. C'est plus facile de dire VBVB.
Oui, il faut rester sur VBVB.
On va rester là-dessus, ce sera plus simple. Et écoute, tu reprends donc la rentrée prochaine avec les Miss, de la même manière, toujours comme coach ?
Alors non.
Non ?
L'année prochaine, je continue de coacher, mais j'ai été promu, on va dire, sur l'équipe masculine.
D'accord.
Donc, qui évolue en National 2.
Très bien.
Et du coup, on est en train de construire une équipe compétitive pour
recrutement
commencer le championnat.
Et tout ça.
Voilà,
c'est la période.
Le championnat l'année prochaine. On est en plein recrutement.
Bien sûr.
Avec le directeur sportif de Villefranche. Donc les choses avancent et les choses commencent à se mettre en place petit à petit.
Et on croise tous les doigts pour avoir une année sportive normale avec des spectateurs,
normal,
des matchs, etc.
On espère ça.
Effectivement.
Eh bien, nous arrivons donc au terme, malheureusement, de cette très, très belle émission sur le volley. Merci, Jérôme.
Et c'est moi qui vous remercie. Jérôme.
Très bonne continuation avec le volley et avec le lycée.
Merci
beaucoup. C'est un bon été, chers auditeurs.
Bon été, Patrick. Bon été, Mathieu. Et
Mathieu,
à
merci.
Très bientôt. Bonne au soirée. Au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.